France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est moi, Roger. Je suis de nouveau là. Vous avez les mains propres? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise des coques de meringue.
Mais savais-tu qu'il existe trois types de meringue en pâtisserie? Pour les différencier, c'est assez simple. La meringue française est dure et croquante à la dégustation. Les meringues suisses et italiennes sont quant à elles onctueuses. C'est ce type de meringue que l'on utilisera pour les tartes citron par exemple.
Pour faire cuire la meringue, eh bien, c'est environ 150 degrés pendant 30 minutes si vous voulez une meringue soufflée et aérienne. Et si vous voulez craquante, eh bien, c'est à 80 degrés pendant environ 3 heures. Et petite astuce aussi, ouvrez le four. Évidemment, si vous avez un batteur, vous pouvez l'utiliser. Sinon, ça fait le sport avant de manger le gâteau.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Eh oui, la meringue nous rend dingue. Et on va vous le prouver aujourd'hui avec nos invités. Jeanne Lecourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une jeune chef pâtissière de 26 ans, pleine de talent, on va le voir. Vous avez été sacrée en 2018.
Meilleur apprenti de France en dessert de restaurant.
Ah, ça rigole pas quand même. Vous êtes passé par de belles maisons. On peut citer le Saint-James récemment à Paris.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes actuellement enseignante en pâtisserie dans une très belle institution parisienne, l'Institut Le Cordon Bleu.
Oui.
Et la meringue est un sujet que vous connaissez par cœur. Vous allez nous raconter ses différentes techniques, ses desserts emblématiques. Et vous avez cuisiné trois très beaux desserts français traditionnels. Même si on va voir que vous y mettez votre touche. Vous nous les citez, ces trois desserts qui ont pour point commun évidemment de la meringue. Hein.
Tout à fait. On va démarrer avec le Mont Blanc.
Ensuite,
on aura la tarte citron meringuée.
Waouh, elle est belle, elle nous fait de l'œil.
Et par la suite, on aura un dessert totalement traditionnel, le succès.
Qui va avoir probablement du succès auprès hein, de notre historien maison qui va nous raconter les origines de la meringue entre le mot et la chose. Il a spécialement enquêté pour nous, c'est Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour. Oui, vous voyez, une enquête approfondie et puis qui va se coupler donc d'une dégustation. Tout va bien.
C'est ça. Il y a de la récompense à la clé quand même voilà, de ces beaux desserts ouais. Qui paradent dans notre studio. Également avec nous tout au long de cette émission, notre professeur de cuisine. Jean-Baptiste Christol, notre chroniqueuse vin Justine Knapp. Bonjour les copains.
Bonjour.
Bonjour.
Jean.
Aujourd'hui, je vous parle du rapport entre le Covid, la meringue et l'Australie.
Oula. Intéressant. Covid, meringue, Australie. Bon, j'ai ma petite idée, mais je connais le contenu de votre chronique en même temps, Jean. Et Justine.
Blanc sur blanc, on va parler de couleurs et notamment des couleurs du vin.
Et c'est passionnant, les couleurs du vin. Votre expérience de la meringue à la maison, vos remarques, vos questions, envoyez-nous un mail en direct à onvadéguster@radiofrance.com. Des ondes au web, il n'y a qu'un pas, tous nos contenus, adresse, les recettes de notre invité autour de la meringue, nos infos pratiques, et bien tout ça c'est à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Mais tout d'abord, fidèle à notre tradition de dégustation à l'aveugle, juste avant de meringuer tous ensemble, je vous propose de goûter mon produit mystère. Il est dans de petits gobelets en carton sous vos micros. Vous n'en savez strictement rien. Allez, ah bah je la vois, commencez à goûter. Justine Knapp.
Alors, donc c'est sirupeux, c'est une couleur... très sombre, au nez, ça se fait un peu chocolat, voilà, très profonde, une note très profonde. Et en bouche, par contre, c'est beaucoup d'acidité, très fruité. Alors, je miserais sur un petit fruit de buisson ou un truc comme ça. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça, en tout cas, c'est caramélisé. Enfin,
Absolument, très belle description. Il y a un goût caramélisé, très nettement. Jeanne Lecourt.
La senteur,
oui.
Je trouve qu'il y a des notes de pain d'épices.
Ouais, des notes épicées, ouais. Tout à fait. On est sur du sucre, hein, quand même, c'est bien sucré.
Oui, totalement, la texture sirupeuse l'indique.
Vous diriez quoi en goût, Jean-Baptiste Christol?
Ça a goût de mélasse, ça ressemble à une mélasse.
Ah, et ça c'est un mot intéressant.
Ça ressemble à une mélasse peut-être, ou une réduction de jus de fruits peut-être.
Mm-hmm.
Ça me fait penser à ces confitures qu'on fait, c'est pas le cynorhodon,
oui, exactement.
Comme ça.
Ouais,
ça ressemble au cynorhodon.
On a presque le côté un peu poilu du cynorhodon qui reste quand on en croque une.
Est-ce que Loïc Bienassi aime?
C'est très très sucré, très concentré.
Ah ça hein, c'est sûr.
Mais oui, c'est vrai que c'est des baies, de quelque chose qui a, je sais pas, c'est dur à déterminer, mais...
Alors,
on dirait une racine un peu, je trouve.
Ah, bah là, vous marquez un très beau point. Vous marquez un très beau point, Jeanne Lecourt. Bon, je ne vous en veux pas de ne pas identifier le produit qui est à la base de ce sirop, de cette mélasse. Ça a été très bien dit par Jean Matacristol, parce que c'est une mélasse. C'est un produit qui a été lancé en grande pompe par une jeune start-up française au storytelling bien aiguisé, il faut bien le dire. Clément et Raffaella ont découvert au Pérou un tubercule, une racine, le yacon, un étrange tubercule très riche en sucre qui répond à l'autre nom de...
Poire de terre.
Bravo Jean-Matacristol, poire de terre. Et qui se présente, ce produit, comme une alternative naturelle au sucre de table avec des allégations... très prometteuse. Ce sucre 100% naturel et biologique serait 2 fois moins calorique que le sucre de table, 4 fois moins riche en glucides que le sucre de table, et il contient 30% de fibres. Il présenterait l'indice glycémique le plus bas de tous les sucrants naturels. Alors donc c'est une espèce de mélasse en effet, qu'on peut utiliser exactement comme un miel liquide ou comme un sirop d'érable. Par exemple, 2 cuillères à café sur 100 grammes de fromage blanc, mais aussi pour sucrer son thé, son café, pour les cocktails, pour la pâtisserie. Et ce produit est désormais présent dans plus de 1500 magasins bio dans toute la France. Biocoop, Naturalia, La Vie Claire. Bon, ensuite il y a le prix. 9 euros le pot de 220 grammes. C'est quand même beaucoup plus cher que du sucre. Mais c'est une alternative intéressante au sucre et c'est... entièrement naturel avec que du yacon à l'intérieur, ça vous séduit ou pas?
Ouais, super intéressant. Mais c'est en utiliser un petit condiment, c'est parfait.
En dessert de restaurant, c'est ultra intéressant à utiliser. J'avais déjà réalisé des desserts sur base de yacon.
Ah bon?
Ouais, tout à fait. D'accord. Des ravioles.
Très bien. Bon, bah, y a qu'à goûter le yacon. Hein? C'est Laurent Thomas qui réalise cette émission avec Nicolas Delmas à la technique, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. On croque la meringue par tous les bouts et tous les goûts. Juste après, just as long as we're together, du chef compositeur américain, du chanteur, hein, tant qu'à faire, du chanteur compositeur américain Jalen Ngonda. Bon appétit sur France Inter. Comment commencer une émission sur la meringue? Peut-être par une définition piochée dans le Larousse gastronomique. ce gros ouvrage qui fait autorité auprès des cuisiniers et des pâtissiers, des cuisinières et des pâtissières. Meringue, appareil de pâtisserie à base de blanc de fermement battu en neige et d'une quantité deux fois plus importante de sucre, très léger, mousseux, moelleux ou croquant, selon son degré de cuisson. Jusqu'au 19e siècle, les meringues cuites au four se moulaient à la cuillère. C'est Carême qui eut l'idée de les coucher à la poche à douille. Alors déjà, Loïc bien assis, vous entendez Carême, il y a votre oreille qui frétille. On prête décidément à Antonin Carême, ce célèbre pâtissier du 19e siècle, de nombreuses innovations, sans trop m'aventurer le croque en bouche, la charlotte, peut-être un peu le vol au vent. Que pensez-vous de cette hypothèse Carême, meringue?
Oui, on lui prête plein de choses, en effet. L'éclair aussi, l'éclair au chocolat. À vrai dire, j'ai un peu regardé.
Hein, oui.
Et j'avoue que j'ai pas trouvé. Donc, si on regarde son pâtissier royal parisien de 1815, enfin, pour moi, toutes les recettes de meringue qu'il donne sont formées à la cuillère, c'est-à-dire traditionnellement. J'ai l'impression plutôt que c'est milieu 19e siècle, qu'on se met à utiliser davantage la douille, et pas systématiquement d'ailleurs.
Donc le Larousse gastronomique raconte des bêtises.
Je n'oserais répondre à cela.
Pratique l'imprudence historique.
Peut-être.
Jeanne Lecourt, on vous a demandé, par pédagogie, de nous préparer votre meringue un peu idéale, celle que chacun et chacune peut se préparer à la maison. On peut la qualifier de familiale, d'ordinaire, de ménagère. Et la voici à vos assiettes, chroniqueur, chroniqueuse. Oui. Elle a une petite carapace. Ah ! On sent que ça craque. Voilà. Ça c'est bon. Avec cette fine pellicule craquante, un cœur relativement moelleux.
Très moelleux même.
Vous aimez ou pas?
Ah oui, bien élastique. Justement, parfois, je trouve que ça peut être trop sec, un peu moelleux, les meringues. Et là, pas du tout, ça évite cet écueil-là. Alors, elle est délicieuse.
Je vous préviens d'emblée, ma réalisatrice, juste avant l'émission, qui pratique beaucoup la meringue à la maison, on sait que c'est une très bonne cuisinière, hein, évidemment, Laurent Thomas, me dit, moi, la meringue chez moi, je la fais cuire 3 heures, c'est super craquant, et je la veux surtout pas moelleuse. Donc, comme quoi, il y a des écoles sur la meringue, Jeanne Lecourt.
Plus un. Pour moi, la meringue, ça va être très, très sec, mais...
Ah d'accord.
Voilà, il y a différentes écoles.
Oui, il y a plusieurs écoles, effectivement. Il y a la meringue suisse qui est légèrement plus moelleuse à l'intérieur.
Mm-hmm.
Et donc là, je suis partie, effectivement, sur une base de meringue suisse.
Ah, une base de meringue suisse. Alors, meringue française, meringue suisse, meringue italienne, s'il vous plaît, essayez de distinguer, de différencier techniquement ces trois meringues, ces trois écoles.
Alors, sur la meringue française, c'est un additionnement, en fait, de blanc.
Oui.
Avec serré au sucre. Sucre semoule. Et on va terminer par du sucre glace à la fin.
Oui.
Qu'on va cuire assez longuement, entre 1h30 à 2h. Ça va dépendre de la pièce, en fait, si elle est grosse ou plus petite. Et on va la cuire à une température vraiment basse, entre 90 degrés et 100 degrés.
Donc, meringue française, des blancs d'œufs fouettés auxquels on incorpore du sucre.
Du sucre serré en 3 fois, ça c'est important.
Serré en 3 fois. Quand vous dites serré, c'est-à-dire qu'on on commence à incorporer un premier tiers du sucre, on bat à nouveau.
Oui, alors il faut incorporer en fait le départ du sucre quand le blanc d'œuf est légèrement mousseux. Sinon ça va être trop dense dans la texture.
D'accord.
Et après on vient en fait du coup serrer en plusieurs fois.
Quel sucre?
Le sucre semoule.
Sucre semoule, ça c'est important. Pas du sucre glace.
Non, on termine.
C'est-à-dire?
Bah, à la fin, en fait, on vient du coup le serrer en 3 fois avec notre sucre semoule, et à la fin, on vient l'incorporer à la marise, donc une spatule en plastique, le sucre glace tamisé pour casser un petit peu ce côté ferme, mais pas refaire retomber trop la meringue en densité.
Donc il y a quand même du sucre glace dans la meringue française?
Oui. Tout à fait.
2 tiers de sucre semoule, 1 tiers de sucre glace, c'est ça?
Approximativement, en fait, dans la recette, c'est environ 100 g de blanc, 100 g de sucre semoule et 80 g de sucre glace.
Tout cela est évidemment à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Alors, la meringue suisse?
Et la meringue suisse, c'est juste donc blanc et sucre semoule. Et le double de poids du sucre semoule par rapport au blanc.
Oui.
Qu'on va... en fait, monter au bain-marie, pasteurisé entre 50-55 degrés.
Mm-hmm.
En fait, on va dénaturer, si vous voulez, les protéines, on va les délier
oui.
du blanc d'œuf.
Oui.
Et qui va permettre du coup un meilleur foisonnement et une texture très lisse, nette lors de la cuisson.
Enfin, donc il y a dans la meringue suisse, contrairement à la meringue française, une pré-cuisson entre guillemets des blancs d'œufs au sucre, au bain-marie. Et c'est ce qui fait qu'on obtient à l'arrivée effectivement cette texture particulièrement moelleuse, légèrement élastique, certains diraient un peu chewing-gum.
Oui, effectivement, et une texture aussi vraiment lisse et granuleuse, qui lisse et pas granuleuse, qui empêche d'avoir du coup ce côté trop dense.
D'accord. Et puis il y a évidemment la meringue italienne.
Et on a effectivement la meringue italienne qu'on retrouve principalement sur des entremets.
Oui.
Après, je pense notamment à la traditionnelle tarte au citron meringuée.
Qu'on va déguster dans un instant.
Exactement. Et il y a un sirop de sucre. Donc là, on est sur une base d'eau, donc de l'eau. Donc environ, pour 100 grammes de blanc, il faut 50 grammes d'eau avec 200 grammes de sucre.
D'accord.
Et on va monter ce sirop-là entre 118 au minimum à 121 degrés au grand maximum.
Oui.
Qu'on va incorporer du coup sur nos blancs qui ont été légèrement fouettés juste avant. Donc quand on arrive à 110 degrés, 115 degrés, on démarre le foisonnement de nos blancs pour incorporer notre sirop de sucre quand le mélange est arrivé à 118.
Et on obtient à la fin une meringue particulièrement soyeuse.
Oui, soyeuse, avec un beau pic d'oiseau, souvent. Donc ça, c'est une des caractéristiques d'une meringue réussie.
Pic d'oiseau ou bec d'oiseau, c'est ça?
Oui, pardon, bec d'oiseau.
Racontez-nous ce que c'est.
Le bec d'oiseau, en fait, c'est tout simplement quand on vient prendre le fouet et qu'on vient tirer, du coup, ce fouet vers nous.
Ça fait un bec de rapace, en fait.
Exactement. Et c'est une texture, du coup, qu'on veut retrouver.
Pour avoir justement, c'est l'indication de blanc relativement ferme.
Oui.
Souvent, on évoque des trucs et des astuces qui permettent de renforcer ou d'aider un peu la meringue, des éléments secs que l'on ajoute, comme par exemple une pointe de levure. Qu'en pensez-vous ?
Effectivement, on peut rajouter plusieurs choses à l'intérieur de nos meringues. Donc, notamment sur de la meringue française, on va rajouter par exemple fécule et maïzena pour densifier la masse et avoir une texture vraiment craquante qui va capter du coup notre humidité à l'intérieur de notre meringue.
D'accord. On évoque également de l'acidité, comme par exemple un peu de citron qui permettrait de rendre plus souple.
Qui rend légèrement plus souple, mais qui va stabiliser nos blancs, en fait, et qui va, du coup, garder une certaine fermeté, qui va empêcher de faire retomber aussi la meringue. On peut retrouver aussi dans les acides, notamment la crème de tartre, qui est un agent qui vient de la vinification, normalement, c'est un acide de la vinification. Voilà.
Et à quel moment on intègre ça dans la meringue ?
Dès le départ, avec votre sucre semoule, en fait, vous incorporez du coup la crème de tarte qui est solide. Le jus de citron, par contre, c'est 2 à 3 groutes pour 100 grammes environ de blanc d'œuf. Et là, vous les incorporez dès le départ dans les blancs d'œufs.
Ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux et notre mail. On nous demande déjà si on peut parfumer ou colorer une meringue, parfumée par exemple avec de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger pour lui donner du goût.
Oui, bien sûr, on peut totalement aromatiser notre meringue sur une base de fleurs d'oranger ou d'eau de rose.
Après, ça ne modifie pas la texture finale de la meringue.
Ça peut la modifier légèrement. Donc, il faut faire attention dans les quantités. Il ne faut pas en abuser, surtout que le fleur d'oranger et l'eau de rose sont assez puissants en goût.
D'accord. Donc, on en met une petite quantité.
Oui.
Pour faire une meringue d'une belle couleur sans forcément utiliser des colorants de synthèse, en utilisant des colorants naturels, qu'est-ce que l'on peut faire ?
Pour les colorants naturels, on peut retrouver de la betterave, du curcuma aussi, du matcha, du café, extrait de café, cacao bien sûr, et poudre de vanille si vous voulez avoir des notes aussi dans les saveurs qui sont intéressantes.
Très bonne idée. Jean, des réactions?
Oui, des réactions d'auditeurs, d'auditrices. Françoise Floquet-Jean-Jean nous demande pourquoi est-ce qu'elle a des boules de sucre sur ses meringues françaises. À la dégustation, elle retrouve des boules de sucre. Moi, j'ai un début d'explication, mais si vous pouvez nous aider.
Des boules de sucre, des petits cristaux?
Oui, oui, oui.
Je pense que son sucre a légèrement massé et qu'il l'a cristallisé.
Et à cause de quoi?
Mauvais mélange de...
Mauvaise incorporation du sucre.
Du sucre, oui.
D'accord.
Ça peut être lié à la cuisson également. Il me semble que le sucre est expulsé par la vapeur d'eau parce que la cuisson est trop forte, par exemple. J'ai un monsieur Roland Gassan qui nous dit qu'il bat, lui, à 3 vitesses différentes, qui commence doucement et qui augmente progressivement la vitesse. Est-ce qu'il y a une règle de 3 fois le sucre, 3 vitesses?
Pas spécialement une règle de 3 enfin, par rapport à la vitesse, mais oui, effectivement, il faut commencer lentement et finir par un foisonnement assez rapide.
Très bien. On va déguster dans un instant votre premier dessert, Jeanne Lecourt. Mais tout d'abord, Loïc Bienassi évoquait la meringue. Alors, on va voir avec vous que c'est pas une mince affaire. C'est même prendre le risque de se heurter à une étymologie assez mystérieuse.
Oui, en effet, on ne sait pas exactement. Alors, je vais déjà peut-être faire un sort à une légende qu'on trouve un peu partout, où c'est un pâtissier suisse, un certain Gasparini, originaire de la ville de Meringen. Ensuite, Meringen, meringue, voilà. En 1720, qui aurait inventé la meringue. Qui aurait inventé la meringue.
On lui fait passer un petit verre d'eau à notre ami Loïc.
C'est l'émotion, moi, quand je parle de meringue. Donc, en 1720, voilà, l'origine supposée. En réalité, dès qu'on trouve ce genre d'étymologie rapportée à un lieu, on peut déjà sortir quelques signaux d'alarme. On parle aussi de Stanislas Leszczynski, le beau-père de Louis XV, donc une origine du mot polonaise, et c'est lui qui aurait fait découvrir la meringue à la cour de France. Ensuite, Marie-Antoinette aurait adoré la meringue. Bon, possibilité latine aussi, du mot merenda, collation du soir. Bon, bref, en clair, on ne sait pas. On ne sait pas, ce qu'on sait, c'est que la première occurrence du mot meringue, c'est en français, donc dans la langue française, qu'on trouve ce mot pour la première fois, en 1691.
Ah oui, c'est quand même lointain.
Oui, fin 17e siècle, chez Massialo, le cuisinier royal et bourgeois, qui consacre un chapitre aux meringues et aux macarons. Donc là, on a la première occurrence du terme, à la fin du 17e siècle.
Pour autant, on ne peut pas considérer la meringue comme une invention française, parce qu'alors entre le mot tel qu'il apparaît, on l'a compris dans nos traités culinaires au 17e, et la chose telle qu'elle a été inventée, c'est-à-dire qui a eu un jour, quand même, j'imagine que vous n'avez pas tout à fait la réponse, mais l'idée de battre des blancs en neige pour les émulsionner et les sucrer.
Alors, il y a des recettes de blancs en neige battus au 16e siècle, mais non cuits. Ensuite, et les premières recettes où on voit qu'on fait cuire ces blancs en neige, c'est toute fin 16e, début 17e siècle. Il y a un manuscrit anglais de 1604, mais qui est peut-être en réalité un peu antérieur, où on trouve une recette de meringue. C'est la plus ancienne recette qu'on connaît. Et il y a aussi un livre de cuisine de Lancelot de Castaux, donc c'est à Liège, là, 1604. Également. Et là, c'est une recette plutôt de meringue italienne. Donc, on a l'apparition de ces préparations, un peu comme si le XVIe siècle avait préparé le terrain en utilisant ces blancs en neige, et qu'à la fin du siècle, au début du siècle suivant, on se disait, si on les faisait cuire maintenant, donc voilà, la meringue apparaît. Mais il va vraiment y avoir une tradition française de la meringue qui va se développer. Et on ne parle pas de meringue à ce moment-là. On voit par exemple une recette de 1653. On parle de biscuits de sucre en neige. Donc le mot, enfin la chose a précédé le mot. Puisque le mot, comme je le disais, c'est 1691.
Absolument. Et ensuite, nous avons évoqué avec Jeanne Lecourt les différentes écoles et origines des meringues selon leur texture et leur processus de fabrication. Est-ce que la meringue... Je connais d'avance vos réponses, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que la meringue italienne aurait un rapport avec l'Italie ? Est-ce que la meringue suisse aurait un rapport avec la Suisse ?
J'ai presque envie de vous dire oui pour vous contrarier, mais non. Non, alors, la meringue italienne, l'histoire est finalement assez lisible. La première occurrence, à ma connaissance, c'est tout début 19e siècle. C'est, alors là encore, la chose avait précédé, puisque j'expliquais que la première recette, on était début 17e. Mais on voit chez Grimaud de la Reynière, au tout début du 19e siècle...
Le père de la critique gastronomique.
Absolument. Et il parle justement du meringue à l'italienne vendu dans une boutique d'un certain pâtissier, rue Neuve des Petits Champs à Paris. Donc on a le mot, mais on ne sait pas à quoi ça correspond exactement. Et on trouve ensuite une recette chez Carême, en 1815, où on voit que finalement, ces meringues à l'italienne, alors, sont quand même différentes de celles qu'on connaît, mais s'en rapprochent. Donc on a là des meringues à l'italienne qui s'inscrivent dans la grande tradition culinaire française. Alors, plus compliqué, la meringue suisse. Plus compliqué parce qu'en fait, cette technique de faire cuire au bain-marie, on a dans un traité, celui de Louis Bayeux, 1856, le pâtissier moderne, une meringue italienne au bassin,
où il s'agit de, pas au bain-marie, mais quand même de chauffer tout en tournant et en incorporant le sucre, ce qui fait qu'il y a un peu le principe de la meringue suisse, même si c'est pas au bain-marie, mais c'est voilà, cette incorporation qui se fait tout en chauffant. Problème, on a une meringue suisse, le mot, qui existe au 19e siècle, mais c'est pour qualifier des sortes de pièces montées en cercle de meringue. Rien à voir avec la meringue suisse telle qu'on l'a définie. Problème. Au XXe siècle, on voit qu'apparaît cette technique, notamment dans l'entre-deux-guerres, de cette meringue préparée au bain-marie. Mais il existe. On l'appelle meringue au bain-marie, mais il existe en parallèle des meringues suisses. Et là, c'est encore, on va dire, un autre type de meringue à la française. On est dans l'entre-deux-guerres. Hein. Désolé, hein. Oui, ça faut suivre, hein, s'il vous plaît. Donc là, on est dans l'entre-deux-guerres. Et en fait, selon moi, c'est simplement à partir des années 70 qu'on s'est mis à qualifier de meringue suisse la meringue au bain-marie. On a par exemple dans le livre de Lenôtre en 1975 où la définition actuelle que vous avez donnée de la meringue suisse. Donc il y avait la chose, le mot, et les deux se sont rencontrés finalement assez récemment. Et j'ajouterais enfin que les meringues, la double crème, la crème de gruyère qu'on mange en Suisse...
Ah, les fameuses meringues que l'on achète en Suisse.
C'est pas des meringues suisses, souvent. C'est des meringues à la française. Donc c'est tout le paradoxe de ces meringues qu'on mange en Suisse, mais qui sont pas des meringues suisses.
Vous évoquez ces meringues qu'on achète dans des fromageries suisses et que l'on trempe en général dans de la double crème de gruyère, c'est ça ?
Et c'est très bon.
Alors, c'est quand même des meringues qui sont craquantes à l'extérieur et avec un cœur assez moelleux. Vous les connaissez ou pas, Jeanne Lecourt ?
Pas du tout, non.
Par contre, le Mont Blanc, ça vous connaît ?
Oui.
Puisque vous nous en avez préparé un magnifique, avec non pas des cheveux d'ange de crème de marron, mais plutôt de la crème de marron qui est dressée à la poche à douille, c'est
oui,
ça ?
Oui, elle est tout à fait, c'est dressée à la poche à douille, donc vous êtes sur une base de meringue française. Mm-hmm. Vous avez du coup une fine couche de meringue française avec une compotée en fait de mandarine.
Oui.
J'ai voulu juste casser un petit peu ce goût assez sucré de la meringue pour apporter un petit peu plus d'acidité et de fraîcheur, et vous avez ensuite une mousseline en fait de crème de marron.
Oui.
Et une bien sûr
maison.
Oui, maison. Et bien sûr, on retrouve la fameuse chantilly qui est un indicateur et un marqueur important du Mont Blanc.
Parce que le Mont Blanc, c'est crème de marron, chantilly, meringue, en effet, j'oublie rien, je crois.
Tout à fait.
Vous y avez ajouté, mais c'est quelque chose que l'on pratique régulièrement, une petite touche fruitée. Là, en l'occurrence, le mariage entre le marron et la mandarine, c'est absolument superbe. Commentaire autour du plateau ?
J'adore.
Alors moi, j'aime beaucoup.
Bon. Il y a ce qu'il faut en sucre. Hein.
Oui, et encore, moi je trouve que précisément, je trouve qu'il y a une légèreté de la c'est mousse là, de marron. Et je trouve que le sucre n'est pas si présent que ça, parce que c'est quand même parfois avec le Mont Blanc, ouais, bon, on se souvient quand on l'a mangé. Et là, il y a quand même une vraie légèreté, cet aspect de mousse, et non pas les cheveux, qui d'habitude aussi, ce n'est pas la même texture. Donc, non, c'est délicieux.
Sachant, Loïc Bienassi, que le Mont Blanc culmine dans le répertoire pâtissier français depuis quand ?
Pour moi, les premières recettes, on peut les repérer fin 19e siècle, ce serait peut-être à approfondir un peu. Mm-hmm. Mais ce qui est amusant, c'est que ces premières recettes, et même encore dans le Larousse gastronomique de 1938, il n'y a pas de meringue dedans. C'est un cercle finalement de ces cheveux de crème de marron, avec au centre de la crème chantilly, et c'est tout.
Sachant que c'est un dessert qu'on associe beaucoup au salon de thé Angelina, qui est rue de Rivoli à Paris. Angelina, fondée en 1903, et alors ils prétendent que la recette de Mont Blanc est restée inchangée dans ce salon de thé parisien depuis le début du XXe siècle.
Il est vrai que je suis toujours un peu sceptique face aux recettes immuables sur plus d'un siècle. À voir, hein. Je ne ferai pas de procès d'intention.
D'accord, il s'en vendrait 600 par jour, 600 Mont Blanc par jour, dans la seule boutique Angelina de la rue de Rivoli. Ça laisse songeur.
On va déguster sur France Inter.
Vous focalisez notre attention, chère Justine Knapp, sur la couleur de la meringue et la couleur du vin.
Dans la meringue, ce qui me pousse personnellement au coup de cuillère, c'est cette blancheur en aplat, nette, sereine, pure, donc toute une symbolique. Le blanc fait partie des couleurs les plus connotées en Occident. C'est pour ça qu'on parle de vin blanc, alors que bon, il est plutôt doré ou citron, pour tout le bien moral que l'évocation du blanc suscite. S'il est question de couleur du vin, sachez que j'y suis peu sensible en général. J'y pioche des infos élémentaires, donc quelle vitalité, quel raisin, quelle vinification, quel âge. Mais je passe vite à l'odeur et au goût qui me semble plus facile à détailler et qui fixe le vin dans ma mémoire, dans mon corps. Et puis, un livre m'a emmenée un peu plus loin que moi-même. Ce livre propose de boire avec les yeux, de choisir un vin par sa couleur. Donc c'est un petit nuancier des couleurs du vin. Une couleur par page, donc ça va d'un pâle verdicchio italien à un vin géorgien complètement noir. Ça s'appelle Vinocolor, ça a été imaginé par Victor Coutard, Mathieu Le Goff, Gala Collecte et Paul Lair. C'est aux éditions Keribus.
C'est un vrai Pantone en fait. Hein.
Exactement.
C'est très joli.
Ces quatre-là ont photographié 120 vins, des vins à la couleur naturelle, donc qui n'ont pas subi de rectification œnologique, pas d'éclaircissement par exemple, ou de filtration agressives qui peuvent être des arguments marchands, souvent au détriment du goût. Pour ces photos, celles dans le livre, bah, il a fallu bricoler à coups de mini-chambres noires et de draps tendus pour éviter les reflets parasites. Saisir l'exacte couleur d'un vin est plus difficile qu'on ne le croit. Donc vous pouvez feuilleter le livre et vous demander bah, pour quelle couleur j'ai de l'appétence. Ensuite, glisser sur le résultat des jeux sur la page d'à côté avec les infos de la cuvée. C'est l'occasion de contourner l'étiquette toute puissante qui est en général ben, notre premier contact avec le vin. Tout ça m'a donné envie, juste pour voir, d'une cave où l'on choisirait parmi des bouteilles nues, habillées par leur contenu, ou d'un bar où l'on commanderait à la seule vue de carafes pleines. Voir le vin, c'est commencer à le boire. C'est la phrase qu'on lit sur la dernière de couverture. Et c'est d'autant plus vrai que le cerveau se base avant tout sur la vision. On se fait une idée du goût avant d'avoir le vin en bouche. La vue influence même les autres sens. On anticipe, on projette. Si on veut y échapper, on peut déguster dans le noir. Mais je vous propose aujourd'hui de déguster dans le blanc pour cultiver l'effet de surprise.
On ne va pas éteindre la lumière du studio 611.
Je trouve que le blanc a la pudeur de ne pas déborder d'indices. On peut le croire un peu vite fade, silencieux, mais c'est oublier qu'il peut envoyer à tout moment un goût franc d'ail ou de navet ou de poisson. On peut faire l'expérience avec le vin blanc que je vous ai servi, donc très pâle, au reflet argenté, à peine teinté. Et pourtant, en bouche, qu'est-ce que vous en pensez ?
Même avant la bouche, le nez est étonnant. C'est un bouquet de fleurs blanches. D'une grande aromatique, et c'est vrai que c'est très très expressif par rapport à une robe plutôt discrète, en effet.
Et en bouche, effectivement, on a du vin, enfin c'est intense. C'est à base de muscat automnel, donc c'est un cépage globalement peu planté, présent surtout en Europe centrale. Ce vin, il est sec, avec de l'amertume, bien marqué par l'eucalyptus et sa fraîcheur. Les arômes de floraison du muscat sont subtils, c'est un vin ouvragé, éclatant. La vigneronne, excellente vigneronne d'Alsace, c'est Mélanie Pfister, 8e génération, qui est installée du côté de Strasbourg. Elle travaille en biodynamie. La cuvée coûte 19 euros. Elle a de la souplesse pour aller avec la meringue, mais dans un dessert très peu sucré. Et puis, tant que la bouteille est ouverte, vous pouvez tenter l'accord parfait, bien connu des Alsaciens, avec des asperges blanches, par exemple.
Blanches, par exemple, absolument, pour faire évidemment un accord chromatique, sachant que l'asperge blanche ouverte débarque sur nos étals. Là, c'est une très bonne nouvelle. L'asperge blanche des Landes, celle d'Alsace, mais également l'asperge verte de Pertuis, de Provence. Bref, on a de très belles asperges et on consacrera d'ailleurs, Justine, à ce légume, à une émission le 6 avril, dans 15 jours. Voilà, merci beaucoup pour cette leçon de, j'ai envie de dire, de chromie bachique. Merci beaucoup. Dans un instant, Jeanne Lecourt, on déguste
la tarte au citron meringuée.
Oh là là, ça, elle a l'air carrément géniale, sachant que votre Mont Blanc, ben on l'a déjà gravi avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Et là, la tarte au citron meringuée, ce sera l'occasion, évidemment, d'apprendre ce que c'est vraiment qu'une meringue italienne.
désespérée quand je vois le monde. Je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps. Je suis désemparée mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser. Je cours. Changement de saison. Je reviens. Avec un félin dans un appartement. Au moins ils sont ce que je ressens. Mais pas vous. La terre est toujours en mouvement. Tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement. Je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. En feu j'ai plongé dans le fleuve. Passer dans des preuves. En amour, il faut des preuves. Changement de saison, je reviens à la maison. Rêver, rêver. Quand la nuit tombe, le cœur a ses raisons.
Les Santolines de Enchanté Julia, une belle soul made in France.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
La meringue dans tous ses états et tous ses éclats, c'est notre menu du jour que l'on déguste avec la chef pâtissière Jeanne Lecourt et notre historien maison Loïc Bienassi, Justine Knapp et Jean-Matta Christol autour de la table. Jean-Matta qui va nous parler dans un instant de, d'un fameux dessert austral.
Australien, peut-être pas, mais peut-être.
On va voir ça, évidemment. Je vous confie un mail de Benjamin Goyenech qu'on a reçu. Je voudrais ici évoquer la meilleure meringue que je connaisse, la meilleure du monde ou de France, ou en tout cas du Sud-Ouest. Il s'avance pas trop, quand même.
Simplement.
C'est la meringue de Clermont, un petit village proche de Mas d'Azil en Ariège. Elle est faite par la même famille depuis 3 générations, au feu de bois, s'il vous plaît. Et c'est une pure merveille. Pour la décrire, je reprends les mots de mon père, Benoît Rey, très fidèle auditeur d'Inter depuis toujours et cuisinier, écrivain, anarchiste, qui parle de cette meringue dans son livre « Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir », c'était une autre époque peut-être, je le cite, hein, excusez-moi, et je le cite encore dans ce commentaire de dégustation qui n'est pas forcément très 2025, « La légèreté de l'être existe, je l'ai rencontrée au fin fond de l'Ariège, chez les Morais, à Clermont, on a l'impression de croquer le pucelage d'un ange, on ouvre les yeux, c'est simplement une meringue, c'est la meringue, ne rien dire, ne rien faire, sinon en manger une autre ». Et Laurent Thomas, notre réalisatrice juste avant l'émission, s'est renseignée, effectivement la boulangerie Morais Michel à Clermont en Ariège existe toujours et fait toujours de magnifiques meringues au feu de bois. Ça, je peux vous assurer que je serai prêt à faire carrément le voyage. Des réactions, Jean-Matta Christol ?
Bah oui, continuons le tour du monde. J'ai un monsieur Patrick Charmet qui nous écoute à Sidi Bibi au Maroc et qui nous parle, lui, des meringues de Coimbra. Voilà, et puis on parlait de meringue italienne tout à l'heure. Martin nous parle des brutti mabuoni qu'on fait en Italie, donc une meringue avec ensuite de la poudre de noisette dedans,
oui,
qui rappellera sans doute le succès un peu plus tard. Et puis on a Aline de Toulouse qui nous parle de l'aquafaba et qui nous demande comment est-ce qu'on fait une meringue à l'aquafaba.
Très intéressant. Alors déjà, Jeanne Lecourt, définition de l'aquafaba.
Alors l'aquafaba, c'est l'eau de pois chiche. Et qui, en fait, cette utilité de pouvoir avoir un bon foisonnement. et de pouvoir monter vraiment en texture.
Donc c'est en fait une eau qui est assez visqueuse. Quand on achète par exemple une conserve de pois chiche cuit, il y a cette eau que l'on peut égoutter et récupérer. Et cette eau, cette aquafaba, effectivement, d'ailleurs c'est de l'eau de pois chiche, mais c'est l'eau globalement de cuisson de toutes les légumineuses, lentilles, fèves et autres. Et cette eau assez riche et visqueuse, en fait, a les mêmes propriétés que le blanc d'œuf, dans le sens où elle contient de l'albumine, c'est bien ça ?
Alors, je parle sous votre contrôle, je crois qu'elle contient de la saponine.
D'accord.
Il me semble que c'est
ça. Qui a les mêmes propriétés qu'un blanc d'œuf.
Qui a les propriétés émulsifiantes.
Oui, c'est ça, saponine, tout à fait.
Voilà. Et on peut, du coup, on peut faire des meringues végétales facilement ?
Tout à fait, à base d'aquafaba, assez facilement.
Très bien. Et est-ce qu'une tarte au citron meringuée, on peut la faire facilement aussi, la vôtre ? Parce qu'elle a l'air quand même assez technique.
Elle est un petit peu technique.
Alors, tout le processus est décrit en long, en large, en travers, sur franceinter.fr à la page On va déguster, car vous avez eu, Jeanne Lecour, la gentillesse de nous rédiger toutes vos recettes, dégustations à vos cuillères, les amis. Loïc ?
Pardon, oui, j'étais en train de manger. Oui, alors, d'abord une pâte sablée extrêmement légère, mm-hmm. Je trouve vraiment délicieuse. J'ai pas encore attaqué la partie meringue. Vous me prenez de court.
Je trouve que dans les tartes au citron meringuées, l'équilibre, il est toujours compliqué à avoir, de ne pas avoir une acidité électrique ou tomber dans le trop de sucre. Et là, pour le coup, c'est parfait. Hein.
C'est vraiment délicieux avec, effectivement, il y a quand même un citron qui électrocute légèrement. Il y a ce qu'il faut comme rondeur sucrée. Il y a une pâte bien croquante et il y a surtout cette meringue italienne particulièrement mousseuse et délicieuse. Ça va, Jean ? Ça se passe
bien ? Ça va très très bien. Je regarde s'il en reste pour plus tard. On dirait qu'il y a un petit confit de citron sous le crémeux citron.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que c'est la différence de texture sur la...
J'ai juste rajouté une petite crème d'amande pour apporter en fait un peu plus de richesse dans le goût et un petit peu plus de moelleux.
Il y a donc une pâte sablée, Jeanne ?
C'est une pâte sucrée, exactement.
Oui.
Une pâte sucrée avec une crème d'amande et vous avez du coup une crème citron, des plus classiques, avec une meringue italienne. Mm-hmm. Et meringue italienne qu'on peut soit finir au chalumeau, soit finir au four. Donc là, pour le coup, je l'ai fini au four, celle-là, qui va garder, du coup, en fait, ça va juste la caraméliser ce qu'il faut. Une minute au four à 220 et...
C'est toujours important de caraméliser, enfin de la chauffer, de la cuire légèrement. Ça apporte de la couleur, évidemment. Ça apporte aussi un petit peu de texture et de goût.
Oui, tout à fait. Ça apporte de la texture, surtout sur une meringue. Après, manger une meringue italienne sans la caraméliser, ça va apporter... En fait, ça va être assez sucré, ça va être dense. Le fait de la cuire un peu, ça va casser ce goût un peu sucre, quand même.
Et effectivement, cette petite crème d'amande qu'il y a entre votre pâte sucrée bien croquante et votre crémeux citron, ça apporte beaucoup de gourmandise. J'imagine que ça étanchéifie un peu aussi la pâte sucrée.
Oui, bien sûr.
C'est délicieux.
Ça étanchéifie effectivement la pâte sucrée. La pâte sucrée, il faut la cuire à blanc, ça c'est important.
Oui.
Pour avoir vraiment une bonne coloration et justement une pâte très croquante.
D'accord. Quel régal. Franchement, pour moi, c'est une des tartes au citron comme ça idéale.
Ah oui, délicieuse.
Qu'on peut faire à la maison, j'avoue que je vais m'y essayer. Qu'est-ce qu'on peut dire, cher historien, de la tarte au citron meringuée ? Est-ce que vous arrivez à en déceler l'origine ?
Alors, peut-être un peu. Au XVIIIe siècle, on voit apparaître dans les traités culinaires français des préparations de fruits surmontées de meringue. Alors, ce ne sont pas des tartes à ce moment-là, des préparations notamment à base de compote de pommes ou même certaines qui intègrent déjà du citron.
Mm-hmm.
Donc, surmontées de meringue, plutôt là des meringues, on va dire, françaises. On est au XVIIIe siècle. C'est peut-être aux États-Unis qu'on trouve les premières tartes citron meringuées. Ils le revendiquent d'ailleurs assez souvent, les Américains. On prête cette invention à une certaine Elizabeth Cohn Goodfellow, qui en 1806 à Philadelphie aurait, dans son magasin, inventé cette préparation. En réalité, on n'a aucune trace de ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a dans des livres de cuisine américains, au long du 19e siècle, des préparations de tartes aux fruits, d'abord de pommes, dans une recette de 1832, surmontée de meringue, et à partir au moins des années 1860, là, des tartes, alors, qui sont différentes de celles qu'on fait aujourd'hui, mais quand même, des tartes au citron meringuées, années 1860 aux États-Unis. En France, on peut peut-être trouver quelques équivalents, mais c'est pas très présent au 19e siècle. Mon sentiment, c'est que c'est surtout à partir de l'entre-deux-guerres, on trouve de plus en plus de recettes de tartes citron meringuées dans des livres de cuisine, des journaux, en France. Et je me demande aussi si finalement, il n'y a pas eu quand même une imitation des États-Unis pour autant mettre en avant dans un passé assez proche, qu'on retrouve maintenant dans toutes les pâtisseries, ces tartes de citron meringuée.
Alors qu'aujourd'hui, on identifie beaucoup ce dessert, la tarte citron meringuée à la France. C'est peut-être lié aussi à son niveau de savoir-faire pâtissier.
Sans doute.
Mais beaucoup de, il n'y a pas un chef à Paris, en région, qui aujourd'hui ne fait pas dans son répertoire pâtissier une tarte au citron meringuée, ou pas meringuée d'ailleurs.
Alors encore une fois, la tarte au citron sans meringue, là, il y a vraiment un savoir-faire ancien dans la pâtisserie française. Mm-hmm. Avec la meringue, c'était pas quelque chose de si courant dans les traités de pâtisserie français. Et je crois que vraiment, le fait que ce soit un produit comme ça, phare, étendard, c'est quand même quelque chose finalement qui remonte aux dernières décennies.
Nous étions chez les Anglo-Saxons, nous y restons avec ce dessert mystère.
France Inter. On va déguster.
Jean-Mathin Christol, vous évoquez un dessert qu'on peut raisonnablement qualifier d'énorme succès depuis quelques années en France.
Absolument. Vous avez sûrement une fonctionnalité sur votre téléphone qui, ponctuellement, rappelle à votre mémoire des photos que vous avez prises il y a un ou deux ans. Mm-hmm. Ou plus loin encore, si, comme moi, vous ne changez de portable que lorsque la batterie a fondu ou que les mises à jour n'existent plus. Il y a 5 ans, le dimanche 22 mars 2020, mon téléphone m'a rappelé que je faisais une randonnée dans un parc national en grande banlieue de Sydney.
D'accord, c'est intéressant de nous raconter votre vie. J'imagine qu'il y a un petit rapport avec notre sujet du jour, Jean.
Absolument, mais avant de vous parler de mes promenades aux antipodes, il faut remonter le temps de presque un siècle. Mm-hmm. C'est bien malgré moi que j'ai suivi les traces de la ballerine russe Anna Pavlova dans l'hémisphère sud où, entre 1926 et 1929, elle fit plusieurs tournées mondiales et notamment en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est à cette occasion qu'aurait été inventé le dessert éponyme, dont la forme et la couleur sont un rappel au tutu de la danseuse classique. Chacune des deux nations en revendique l'invention en s'appuyant sur des sources plus anciennes qui feraient de la version des années 30 la synthèse d'autres desserts existants. Réflexe pavlovien, le dessert est là-bas immédiatement associé aux fêtes de fin d'année, comme nous le faisons chez nous avec la bûche. C'est une célébration de l'été, rappelez-vous que les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud, qui clôt un barbecue familial, une autre tradition australienne qui nous surprendrait à Noël. De ce côté du monde, la composition est restée à peu près inchangée depuis une centaine d'années. Meringue, chantilly, fruits frais de saison, fruits rouges notamment, et fraises en tête. Une acidité bienvenue pour nettoyer le palais de tout le sucre que contiennent la meringue et la crème, et qui trouve parfois son contrepoint avec un coulis de fruits de la passion, une association si répandue qu'on le trouve même en conserve prête à l'emploi.
Ah oui, c'est carrément une institution là-bas, et c'est en Australie, Jean, que vous avez découvert le secret de cette meringue un peu particulière.
Oui, alors c'est surtout grâce au confinement allégé que j'ai découvert dans des kits prêts à l'emploi que l'on trouve dans des supermarchés australiens. Je dois saluer ici le supermarché Coles de Berrera Heights, qui pendant 4 mois m'a vu passer 2 fois par semaine, et la patience de Susan Cleary qui m'a laissé utiliser sa cuisine pour y faire à peu près tout et n'importe quoi. Imaginez un contenant en forme d'œuf, bien sûr, dans lequel on retrouve une poudre composée de sucre, de blanc d'œuf déshydraté et d'amidon, à laquelle il suffit d'ajouter un peu d'eau et de monter en neige comme une meringue traditionnelle.
Ah, carrément, oui. On quitte.
L'amidon, en retenant l'humidité des blancs d'œufs, permet d'obtenir une meringue à la fois croustillante en surface et moelleuse à cœur, une texture que l'on retrouve en partie seulement, on l'a évoqué tout à l'heure, dans la meringue française, quand elle est légèrement sous-cuite.
Et vous êtes venu, Jean, avec une pavlova bien de chez nous.
Oui, parce que les fraises au mois de mars, on essaye de ne pas.
Hein. Il faut patienter encore un peu.
J'ai essayé donc plutôt de mettre des fruits de saison, donc dans vos assiettes, vous avez de la mangue et de l'orange sanguine. Et plutôt qu'une chantilly, j'ai fait une crème coco-vanille qui vous permettra d'utiliser les jaunes d'œufs que vous avez clarifié pour utiliser les blancs de la meringue. La recette est disponible bien sûr sur le site de l'émission, néanmoins la voici rapidement. Donc 3 blancs d'œufs, 90 g de sucre glace, 40 g de semoule additionnée de 20 g de fécule de maïs. On monte les blancs, donc je reprends ce que disait Jeanne tout à l'heure, on monte les blancs, une fois qu'ils commencent à être un petit peu moussés, on met le sucre glace en plusieurs fois. Et enfin, en toute fin de préparation, on rajoute le sucre semoule rajouté avec la fécule de maïs. Voilà, moi je mets un petit peu de jus de citron dedans. Et pour la crème, c'est une crème pâtissière, ni plus ni moins. Simplement, j'ai utilisé du lait de coco plutôt que du lait normal.
Ah, carrément.
Oui. Voilà, tout simplement. La cuisson, en revanche, donc c'est une cuisson rapide, c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle a cuit une demi-heure à 120 degrés. Et ensuite, on la laisse à four mort. Alors, four mort, c'est un mot de pâtissier pour dire que le four est encore chaud, mais éteint. Donc, on laisse finir la cuisson à four mort. Et c'est d'ailleurs comme ça, bref, rappel historique, c'est d'ailleurs comme ça qu'on faisait les meringues une époque chez les boulangers. On mettait les meringues dans les fours des boulangers une fois qu'ils étaient éteints, et c'était cuit pour le lendemain matin.
Ça permettait de ne pas gaspiller d'énergie et de chaleur.
Exactement. Et le côté croquant, parce qu'on aime bien avoir un rappel croquant, c'est des fruits secs caramélisés, voilà.
Absolument délicieux. Et vous nous rappelez les fruits, il y a des agrumes de l'orange sanguine ?
Orange sanguine et mangue, simplement.
Superbe. Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne ?
C'est très intéressant le fait d'avoir du coup la crème de coco.
Oui.
Je trouve que ça apporte une rondeur en bouche.
C'est vrai.
Qui est vraiment
crème pâtissière à la crème de coco.
Oui.
Ça, c'est très très intéressant. Vous la pratiquez ou pas, la pavlova, Jeanne ?
Oui, tout à fait. Oui. Notamment lors des cours qu'on dispense au sein du cordon bleu.
C'est quoi vos fruits préférés sur la surface d'une pavlova ?
Je dirais plus des fruits rouges. On veut avoir ce côté assez acide.
Moi, j'avoue, faire des pavlovas à l'automne, alors faudra attendre l'automne prochain, avec des kakis. Et le kaki est en texture, et en couleur, et en rapport sucre-acidité, ça marche très très bien avec la pavlova. Vous l'aimez, la pavlova signée Jean-Baptiste Christol ?
Absolument, et moi j'aime bien. Alors, sur le coup, je crois que c'est des pralines qui en fait.
On est un peu dans l'idée.
C'est une très bonne idée.
Les pralines, c'est très très sucré.
Des noisettes, des amandes, des cacahuètes, non ?
C'est une spéciale fin de placard. Si ça bouge, c'est des mythes, mais non, c'est des noisettes.
Ah, c'était ça.
Sympa.
Ah, c'était donc ça. Tous les fruits secs que j'avais, je les ai caramélisés.
Bon, alors évidemment, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous citent des desserts meringués emblématiques de la culture pâtissière française. On peut en lister quelques-uns comme ça, Jeanne ?
On a le macaron.
Ah bah bien sûr, on l'oubliait, le macaron.
Et on a
le macaron, c'est une base de meringue.
Alors vous avez base de meringue française et meringue italienne.
C'est ça ?
Ouais.
Il y a, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ?
La polonaise, non ?
Ah, la polonaise, définition.
La polonaise aussi. La polonaise, de mémoire, il me semble que c'est avec une base de brioche aussi.
Polonaise de brioche.
Oui, c'est ça.
Très bien.
Entouré de meringue italienne, non, c'est ça.
Hein. L'omelette norvégienne, dans la même.
Bravo, l'omelette norvégienne. Alors là, c'est meringue italienne ?
C'est meringue italienne, oui.
On parle d'un dessert flambé ?
Oui, tout à fait. Vous avez les soufflés aussi ?
Les soufflés,
bien sûr.
Soufflés sur base de meringue, vous pouvez.
Ah oui ?
Oui.
D'accord, un soufflé sous base de meringue. Et attendez, le fameux merveilleux.
Merveilleux.
Ah oui.
Qui connaît beaucoup de succès. Là, je vais vous piéger avec un dessert que tout le monde a oublié. Création de Gaston Lenôtre, datant de 1968.
Le Concorde.
Non.
Feuille d'automne.
Sèche.
Feuille de l'automne.
Ah oui.
Feuille de l'automne, meringue et mousse au chocolat.
Et moi j'avais 1950 comme date.
Ah bon ? Ah ben on essaie. Alors je m'incline devant l'historien.
Le Concorde, c'est une meringue au chocolat quand même.
Ah pardon ?
Oui.
D'accord.
Donc
Jean, un demi-point pour Jean.
Un demi-point pour moi.
Vous avez d'autres desserts meringués en tête ou pas ?
Non.
Ça commence par un S ?
Il y a le vacherin, sinon.
Le succès.
Le sage-frein.
Puisque le succès défile sous nos micros, il est signé Jeanne Lecourt, chef pâtissière de grand talent, âgée seulement de 26 ans, à la carrière tout à fait prometteuse. Allez, vous nous en dites un mot ?
Alors, le succès, c'est sur une base, en fait, de dacquoise. C'était une variation, en fait. C'est une variation du biscuit dacquoise. Donc vous avez, là je l'ai fait sur une base de meringue suisse. Donc vous avez du coup plus une texture un petit peu plus ferme dans le biscuit. Donc vous avez une mousseline au praliné noisette, avec intérieur noisette et pralin. Le pralin et le praliné, c'est pas la même chose. Le pralin, c'est vraiment juste les petites noisettes caramélisées et concassées avant broyage, du coup, pour avoir notre praliné.
C'est un régal, hein. Alors,
tout ça fond en bouche à des vitesses différentes.
C'est complètement dingue.
Ah, c'est délicieux. Moi, ça évoque aussi un peu le Paris-Brest, de par cette crème pralinée.
C'est vrai.
Bon, moi, le Paris-Brest, moi, j'adore ça. Hein,
faut dire. Oui, mais il faudrait de la pâte à choux.
Avec
la meringue, c'est...
Ah oui, c'est délicieux.
Il y a une illusion comme ça de...
Ah, oui.
De légèreté. Jean, un dernier petit mot.
Ça fait penser au bacio di dame, hein, qu'on fait aussi en Italie. Et c'est la même base. Et il y a sûrement une recherche à faire sur le côté meringue plus poudre de fruits secs.
Et oui, c'est vrai.
Il y a les amaretti aussi. Et puis il y aura un peu plus tard.
Les macarons. Les macarons,
bien sûr.
Ah, absolument.
J'ai Anne qui nous écrit et qui nous parle, fin du tour du monde, du falbiaka, je ne sais pas comment on dit, en Suède.
Oui,
de la meringue au cacao.
On se renseignera. Le falbiaka, comme quoi la meringue est vraiment une technique universelle. merci Jeanne Lecourt pour vos superbes recettes. À très bientôt.
Merci à vous.
Merci Loïc, à la prochaine, Jean et Justine.
À bientôt.
Avis aux Lillois et aux Lillois, je serai mardi dans la capitale du Nord, à Lille donc, pour dédicacer mon nouveau livre, Recettes et Récits, aux éditions Marabout et Radio France. Je vous attends ce mardi 25 mars de 16h30 à 19h à la librairie Le Furet, sur la grande place de Lille. Et puis une annonce à l'attention des chefs et des professionnels de la restauration, le festival We Love Green, qui aura lieu cette année au Bois de Vincennes, près de Paris, les 6, 7 et 8 juin, et dont France Inter est partenaire. Eh bien, We Love Green cherche encore des candidatures pour la restauration végétarienne du festival. Avis aux restaurateurs végétariens qui nous écoutent, il reste encore quelques jours pour candidater donc. Vous allez sur la page Instagram du festival, puisque le jury, présidé cette année par Valentin Raffali et Ella Aflalo, clôture les candidatures le 4 avril, et il y aura le verdict le 7, dimanche prochain à 11h. Place à la 6e masterclass dont on va déguster avec dans le fauteuil Hélène Darroze, à dimanche prochain si vous avez encore faim.